Finistère.
La matinale en campagne est toujours avec Michel Tens, ministre sortant qui brigue un deuxième mandat au sein du gouvernement jurassien, élu socialiste, donc citoyen de Delémont. Et 57 ans, vous avez passé votre enfance à Morges. Puisque vous êtes un ministre sortant, cette chronique est un peu particulière. On commence par un bilan de votre législature, du moins un survol. Hein, en 5 minutes de radio, on ne peut pas dresser le bilan complet d'un ministre. Revenons donc sur quelques éléments marquants.
On va commencer par la santé. Vous êtes ministre de la Santé, législature assez compliquée, hein, des prix à la hausse, une nouvelle répartition du financement du mouvement à la tête de l'hôpital du Jura, la fermeture de HMP, des pétitions sur les urgences, sur les établissements de référence. Certains se demandent parfois s'il y a un capitaine dans le bateau. Quand vous réfléchissez à prendre une décision en matière de santé, c'est quoi votre priorité ?
Dans ce que vous avez dit, il y a deux choses qui échappent complètement en fait au pouvoir politique cantonal. Il y a des décisions au plan fédéral qui bouleversent le paysage hospitalier au niveau suisse et réinterpellent chaque canton. Moi, mon objectif et ma fierté, c'est de faire en sorte qu'à l'heure actuelle, nous ayons toujours un site de soins aigus hospitalier dans le canton. Pour une population de 70 000 habitants, je pense que c'est un miracle, véritablement. Mon objectif est de faire en sorte que notre hôpital, l'offre hospitalière jurassienne, soit maintenue, notamment justement par rapport à des soins aigus, mais aussi renforcée dans le domaine de la rééducation et de la réadaptation. En ce sens, je l'ai toujours dit, le site de Porrentruy a un magnifique avenir. Par contre, en ce qui concerne les soins aigus, si nous ne travaillons pas en réseau avec les hôpitaux de l'arc jurassien depuis Bâle jusqu'à Neuchâtel en passant par le Jura bernois, alors nous pourrions avoir des problèmes.
Dans la liste évoquée par Cédric, on a parlé des mouvements à la tête de la JU durant cette législature. Il y a eu au niveau de la direction, jusqu'à l'arrivée de Christian Schneider, il y avait Laurent Christ et puis Daniel Rueck auparavant. Et puis il y a la nomination de Pauline de Vosbolay à la tête du conseil d'administration qui a ensuite pris aussi la même fonction à Neuchâtel. Cette situation ne vous gêne pas? Vous craignez pas l'ingérence, vous?
Alors, je le disais juste à l'instant, il est important d'imaginer une organisation hospitalière en réseau au niveau de l'arc jurassien. Nous avons, mon collègue Laurent Courte et moi-même, signé une convention dans laquelle nous affirmons notre volonté d'avoir une réflexion en partenariat les uns avec les autres, et de viser à terme une répartition des prestations aiguës, notamment, entre nos divers établissements. C'est une vision à long terme. Il nous semble que c'est un acte politique fort que d'avoir à la tête de ces deux établissements une même personne pour marquer cette volonté politique. Maintenant, il se trouve que côté Neuchâtelois, l'organisation hospitalière est compliquée, notamment par le fait que le Parlement neuchâtelois a beaucoup plus de possibilités d'ingérence, si j'ose dire, dans les choix faits par l'hôpital lui-même, notamment dans l'organisation de la répartition des prestations entre les sites. Ce qui n'est pas le cas, justement, dans le Jura. L'hôpital du Jura, et je pense que c'est heureux, a la possibilité, lui, de réagir au marché. Parce qu'il faut être clair, à l'heure actuelle, avec les décisions qui ont été prises au niveau de la Confédération, notamment dans la modification de la LAMAL, il est important pour les hôpitaux de pouvoir réagir en fonction du marché. Qu'on le veuille ou non, la santé, qui représente quand même 64 milliards de francs dans notre pays, la santé est devenue un marché. Je le regrette en tant que socialiste, mais je dois travailler avec. Or, il est important que nos hôpitaux puissent se battre et il est nécessaire par conséquent de leur donner un tant soit peu d'indépendance.
Vous avez dû faire face à deux fois des pétitions signées quand même par beaucoup de monde, hein, 5000 personnes, aussi bien celles des médecins que celles des urgences à Porrentruy. La fermeture des urgences la nuit, pour l'instant, c'est en stand-by parce que vous avez suspendu la mesure à la fin de l'année passée. C'était une suspension électorale ?
Je crois avoir affirmé, et j'ai toujours la même conviction, que je serais d'accord de fermer les urgences de Porrentruy le jour où l'hôpital aura mis en place ce qu'il a affirmé qu'il mettrait en place à la place en ce qui concerne
le réseau de médecins, c'est ça?
Le réseau de médecins, donc la prise en charge extra-hospitalière avec un SMUR, avec des médecins d'urgence de proximité, avec des first responders, avec, enfin bref, tout ce qu'il y a dans le concept de prise en charge extra-hospitalière dans le projet de l'hôpital du Jura. À ce jour, ça n'est pas encore en place. Je sais que l'hôpital du Jura y travaille positivement. Le jour où l'organisation sera prête, alors nous pourrons aller face au Parlement pour modifier la loi sur les établissements hospitaliers, parce que pour fermer des urgences, il s'agit de modifier la loi sur les établissements hospitaliers, et ainsi c'est le Parlement qui aura le dernier mot.
Il y a quand même 5000 personnes qui veulent pas en entendre parler de cette fermeture des urgences.
C'est une pétition qui a été en effet déposée auprès du gouvernement. J'ai reçu les pétitionnaires. Je leur ai réaffirmé exactement ce que je viens de vous dire. Et à l'heure actuelle, les urgences de nuit sur le site de Porrentruy sont toujours ouvertes. Donc nous devons passer ces diverses étapes. Et en finalité, c'est le Parlement qui aura le dernier mot.
On change de sujet avec les gens du voyage, un dossier complexe que vous avez sorti des tiroirs pour tenter de trouver une solution. Alors d'abord, vous visiez clairement Bure, la population a grondé, vous avez changé d'avis, travaillé en silence pour ressortir un projet à courant de lin. Au final, vous laissez l'image de celui qui a cédé aux ajoulots pour imposer quelque chose au Vadet.
J'ose espérer être plutôt celui qui aura retroussé ses manches pour prendre un dossier à bras-le-corps qui traînait, si vous me passez l'expression, depuis une vingtaine d'années. Là maintenant, il y a un projet de modification d'une fiche du plan directeur cantonal qui est entre les mains d'une commission parlementaire qui va pouvoir décider, là aussi, si oui ou non, il crée ces deux places, l'une pour les gens de voyage suisses du côté de Porrentruy, à Maralo, et l'autre pour les gens de voyage étrangers du côté de Les Monts Courants de l'Ain. Alors par rapport à Bure, je pense qu'il y a un épisode que vous avez peut-être raté ou sur lequel je n'ai pas été forcément assez clair, puisque visiblement ça n'est pas compris, c'est que du côté de Bure, il y avait en effet un projet sur un terrain de l'armée. Il y a eu même deux projets sur deux terrains différents. Nous étions assez en avant dans les discussions. Il y a eu en effet cet échange un peu difficile avec la population de Bure, mais il y a surtout un événement qui est arrivé peu après. L'armée, soudainement, a fait volte-face et a dit « Non, on ne va pas vous le mettre à disposition ». Et donc, quelque part, j'ai dû renoncer à ce projet-là.
En matière de communication, on vous l'a reproché, ce manque de clarté sur ce dossier-là. Est-ce que vous reconnaissez que, d'un point de vue communication, on n'avait pas été bon ?
Oui, mais je pense qu'il serait très difficile d'être parfait dans ce dossier-là au niveau de la com, parce que quelle que soit la communication que vous ferez, elle sera difficilement perçue. On a souvent entendu les parlementaires ou l'Association jurassienne des communes taper du poing sur la table en disant le gouvernement doit trouver une solution. Et ces mêmes communes ou ces mêmes parlementaires critiquaient en fait les propositions faites par le gouvernement. Donc là maintenant, j'estime avoir fait le boulot en amenant en fait sur la table du Parlement un projet avec deux solutions pour les deux problèmes que nous avons à régler. Maintenant, il faut que le Parlement prenne ses responsabilités, prenne la décision d'accepter cette modification de fiche de plan directeur, de manière à ce que, dès la fin de l'année ou début de l'année prochaine, nous puissions mettre en place l'aire d'accueil des gens du voyage étranger, celle dévolue aux gens du voyage suisse étant pratiquement mise en œuvre. Donc, il faut que le Parlement, là aussi, nous aide à régler ce problème de manière à ce qu'on évite des dérives.
On va parler maintenant de sport, puisque c'est le thème que vous avez tiré au sort. Vous n'étiez pas
volontiers.
Très content, ça.
Ben, c'est vrai que j'avoue ne pas être un grand sportif, quoique je fasse volontiers du vélo ou de la marche, mais là, c'est plutôt de l'activité physique que du sport. Donc, je suis pas très féru de sport. On ne me voit pas beaucoup sur le bord des terrains de sport dans
Alors,
le Jura.
Pour la prochaine législature, il y aura peut-être des projets phares ou des projets majeurs. Est-ce qu'à votre avis, il faut un grand nouveau complexe au niveau sportif, multisport, pour doter le Jura de quelque chose d'important ?
Non, je ne pense pas. Nous avons diverses installations sportives dans les principales villes de ce canton. Je pense qu'il faut travailler sur ce que nous avons.
Elles sont plus trop en état.
Elles sont plus trop en état. Il faut en effet investir ou réinvestir. Mais vous le savez, au niveau des investissements, notre capacité est relativement faible. Donc il faut que les uns et les autres nous mettions autour de la table pour trouver les meilleures solutions. Parce que je pense qu'à l'heure actuelle, nous n'avons plus, et quand je dis nous, c'est soit l'État, soit les communes, le Jura de manière générale, nous n'avons plus la possibilité de nous disperser dans les investissements.
Donc et on n'investit pas trop dans le sport alors ?
Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je réponds à votre question de dire, est-ce qu'il faut concentrer beaucoup d'investissements dans un seul lieu ? Je pense que ça n'est pas opportun. En plus, je pense que si vous allez discuter, enfin non seulement je pense, mais j'affirme que si vous allez discuter avec les sportifs, ils vont vous dire non, nous avons besoin, par exemple, d'une patinoire aux Franches-Montagnes, nous avons besoin d'une patinoire en Ajoie, dans la vallée d'Audelémont, parce qu'une seule patinoire, au niveau de l'utilisation et des possibilités du d'utilisation, des rythmes d'utilisation, c'est pas possible. Donc je pense qu'on doit maintenir des installations un tant soit peu décentralisées dans les districts.
Les sportifs, justement, ils sentent parfois un peu les parents pauvres de l'État. Il y a beaucoup de subventions qui vont à la culture, si on les écoutait pas assez au sport. Est-ce qu'il faut rééquilibrer?
Je pense qu'il faudrait que l'on compare l'ensemble des chiffres entre les montants dévolus à la culture et les montants dévolus au sport pour qu'on puisse affirmer ou réaffirmer ce que vous venez de dire. Là, je ne peux pas faire de comparaison. Je n'ai pas les chiffres sous la main, mais je doute qu'il y ait vraiment de très fortes différences entre les investissements faits dans la culture et dans le sport.
On investit assez dans le sport, selon vous?
Je pense qu'on investit suffisamment.
C'est pas seulement des investissements, c'est une question de subvention aussi.
Oui, investissement et fonctionnement. Tout à fait. Je pense que tant pour la culture que pour le sport, l'État et les communes font ce qu'ils ont à faire. Je crois que nous avons des équipes qui tiennent le coup, même si elles ont parfois quelques revers. Mais nous avons une bonne culture sportive, si vous me passez l'expression.